Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. À ce micro, Mouhamadou Oumfa pour vous présenter le monde aujourd'hui, édition du vendredi 26 mai 2023. Il est 19h30 temps universel. Voici le sommaire. En Somalie, les islamistes Chebab attaquent une base de soldats ougandais de la force de l'Union africaine. Au Soudan, les combats font rage au Darfour entre militaires et paramilitaires au quatrième jour d'un cessez-le-feu mieux respecté selon les médiateurs. Fulgence Kayishema, soupçonné d'avoir joué un rôle capital lors du génocide au Rwanda en 1994, a comparu devant un tribunal sud-africain 2 jours après son arrestation. En Éthiopie, la démobilisation des forces rebelles du Tigré a commencé ce vendredi en vertu d'un accord signé à Pretoria le 2 novembre 2022. À suivre aussi les nouvelles économiques, le président du Kenya, William Ruto, accuse des agents des impôts de réduire les recettes de l'État du fait de la corruption. Et les sports, il y a 40 ans, Yannick Noah remportait le Roland Garros. Pour commencer, le journal. L'un des acteurs majeurs présumés du génocide au Rwanda en 1994, Fulgence Kayishema, a été présenté devant un tribunal du Cap en Afrique du Sud ce vendredi. Longtemps recherché par la justice et la police internationale, son arrestation il y a 2 jours a mis fin à une cavale qui aura duré près de 20 ans. Eric Manirakiza.
Fulgence Kayishema était inspecteur de police judiciaire pendant le génocide au Rwanda. Selon l'acte d'accusation, M. Kayishema a directement participé à la planification et à l'exécution du massacre de plus de 2000 Tutsis réfugiés dans l'église de Nyange, dans la commune de Kivumu, dans le nord-est du Rwanda. Il est inculpé par la justice internationale de génocide, complicité de génocide, complot en vue de commettre le génocide et de crimes contre l'humanité. Au cours de cette première comparution, la question de son extradition vers le Rwanda n'a pas été abordée. L'accusé a été placé en détention provisoire dans la prison de haute sécurité de Pulsmoor, près du Cap. La prochaine audience est prévue le 2 juin. L'association de survivants du génocide Ibuka a dit espérer que lors du procès de Fulgence Kayishema, les rouages de la justice ne connaîtront pas les types de retard que le procès Kabuga a connu. Monsieur Kayishema, 62 ans, était l'un des fugitifs les plus recherchés au monde pour génocide, selon la justice internationale. Passé maître dans l'empreinte d'identité, il utilisait dernièrement le nom de Donatien Nibashumba. Il a été arrêté mercredi avec l'aide d'Interpol en Afrique du Sud. 3 fugitifs sont toujours recherchés par la justice internationale pour leur rôle présumé dans le génocide rwandais.
En Éthiopie, la démobilisation des forces rebelles du Tigré a commencé ce vendredi en vertu de l'accord de paix signé le 2 novembre 2022 à Pretoria entre le gouvernement fédéral et les autorités rebelles de cette région du nord du pays, selon des médias proches des deux camps. Les combattants seront transférés vers des sites prévus à compter de ce jour, 26 mai 2023, a annoncé Tigray TV, la télévision officielle du Tigré. Fana Bissi, média proche du parti du Premier ministre Abiy Ahmed, a de son côté annoncé que la première phase du programme de réintégration et réhabilitation des ex-combattants tigréens avait officiellement été lancée. La Chine et la RDC vont renforcer leur partenariat, a déclaré ce vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué au moment où les deux pays renégocient des contrats miniers pour les réserves minérales congolaises. M. Tshisekedi et son homologue chinois Xi Jinping ont annoncé qu'ils relevaient la relation bilatérale d'un partenariat stratégique de coopération gagnant-gagnant à un partenariat de coopération stratégique globale selon ce communiqué. La Chine est un investisseur majeur en RDC où la puissance asiatique domine l'industrie minière, mais M. Tshisekedi s'est engagé publiquement à renégocier les contrats miniers congolais, notamment celui signé en 2008 avec la Chine par son prédécesseur Joseph Kabila, afin d'obtenir de meilleures conditions pour son pays. En Somalie, les islamistes Chebab ont attaqué une base militaire de l'Union africaine dans le sud du pays. L'assaut a visé la base de soldats ougandais de Boulomarer à 120 km de la capitale Mogadiscio. Alexandrine Olognon.
L'attaque revendiquée contre les Chebab a été menée au petit matin ce vendredi contre cette base abritant des troupes ougandaises. D'après les explications du commandant militaire de l'armée somalienne, un kamikaze a conduit un véhicule avec des explosifs, ciblant d'abord la base de l'ATMIS, et des combats à l'arme automatique ont éclaté. Les terroristes ont été contraints de battre en retraite, selon Mohamed Diéro Hassan. La force de l'Union africaine en Somalie a annoncé dans un bref communiqué qu'elle évalue la situation sécuritaire. L'ATMIS, qui compte environ 20 000 militaires, policiers et civils venus d'Ouganda, du Burundi, de Djibouti, d'Éthiopie et du Kenya, a pris le relais en avril 2022 de l'AMISOM, déployée à partir de 2007 pour combattre l'insurrection Shebab. Le groupe affilié à Al-Qaïda combat depuis 2007 le gouvernement fédéral afin d'instaurer la loi islamique en Somalie.
L'aide humanitaire parvenait toujours difficilement ce vendredi en journée dans le centre du Nigeria où des affrontements entre communautés ont fait plus de 170 morts et des milliers de déplacés depuis 10 jours selon un responsable local. La semaine dernière, la police avait indiqué que 87 personnes avaient été tuées dans ces affrontements et attaques dans plusieurs villages du district de Mangou dans l'état de Plateau. La police a assuré ce vendredi que le calme était revenu mais n'a pas souhaité confirmer le nouveau bilan de plus de 170 morts donné par le représentant du district. Selon l'Agence nationale de gestion des urgences, plus de 3500 personnes ont été déplacées et au moins 720 maisons ont été partiellement ou complètement détruites. L'Arabie saoudite et les États-Unis ont indiqué ce vendredi que les parties belligérantes du Soudan respectaient de mieux en mieux le cessez-le-feu malgré les tirs sporadiques à Khartoum et ailleurs dans le pays. Jean-Roger Bion nous en dit plus.
Bien que l'on ait observé l'utilisation d'avions militaires et des tirs isolés à Khartoum, la situation s'est améliorée depuis le 24 mai, date à laquelle le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu a détecté des violations importantes de l'accord, indique un communiqué américano-saoudien. Les représentants saoudiens et américains ont mis en garde jeudi les parties contre de nouvelles violations et les ont exhortés à mieux respecter le cessez-le-feu, ce qu'elles ont fait, ajoute le communiqué. Cela dit, la guerre continue de faire rage au Darfour, selon des observateurs. Le conflit qui a éclaté le 15 avril a fait plus de 1800 morts d'après l'ONU. Il a aussi contraint plus d'un million de personnes à se déplacer à l'intérieur de ce pays d'Afrique de l'Est, l'un des plus pauvres au monde, et au moins 300 000 habitants se sont réfugiés dans les pays voisins, eux-mêmes en crise. Alors que la trêve s'achève lundi soir, aucun couloir humanitaire n'a pu être sécurisé, bloquant aussi les civils qui veulent partir.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie s'apprête à élire son président dimanche lors d'un second tour inédit au terme d'une campagne amère, emplie de promesses et d'anathèmes jetés par les deux camps contre les Kurdes et les réfugiés syriens. John Lyndon.
Pour ce nouveau face-à-face, Recep Tayyip Erdogan part après le premier tour avec une avance de 5 points et 2,5 millions de voix sur son rival, le social-démocrate Kemal Kılıçdaroğlu, à la tête d'une alliance disparate des 6 partis allant de la droite nationaliste à la gauche. Les derniers sondages, qui s'étaient trompés avant le premier tour, accordaient d'ailleurs une avance similaire de 5 points au chef de l'État. En dépit de cette arithmétique a priori favorable à Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, il reste une inconnue, celle des 8,3 millions de voix qui ne se sont pas exprimées lors du premier tour, malgré une participation de 87%. Déjà, la diaspora qui a pu voter jusqu'à mardi soir s'est davantage déplacée avec 1,9 million de bulletins contre 1,6 million au premier tour. Dans un communiqué, l'organisation Reporters sans frontières a dénoncé le déséquilibre des moyens dévolus à l'opposition pour se faire entendre quand le chef de l'État monopolise à lui seul les écrans de télévision.
Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra la semaine prochaine en Finlande, qui a récemment rejoint l'OTAN, et y prononcera un discours en faveur du soutien à l'Ukraine face à la Russie, a annoncé ce vendredi le département d'État. Il se rendra le 1er et 2 juin à Helsinki après une rencontre à Oslo avec les ministres des Affaires étrangères des pays alliés. Monsieur Blinken se rendra d'abord en Suède, pays candidat à une adhésion à l'OTAN. La Finlande et la Suède, qui ont pendant des décennies opté pour une stratégie de non-alignement militaire, pour éviter un conflit avec Moscou, ont revu leur position et demandé une adhésion à l'OTAN après l'invasion de l'Ukraine en février 2022. L'Inde va inaugurer dimanche le nouveau siège de son Parlement, l'un des plus grands projets mis en œuvre par le Premier ministre nationaliste hindou, Narendra Modi. Le nouveau siège, qui a coûté environ 145 millions de dollars, entre dans le cadre de l'ambitieux programme de M. Modi visant à rénover ou à remplacer les bâtiments gouvernementaux datant de l'ère britannique. La nouvelle chambre basse a été dotée de 888 sièges, semblant indiquer que les autorités prévoient d'accroître le nombre de ses membres actuellement fixé à un maximum de 550. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Alexandrine Ollognon.
Les producteurs d'électricité indépendants du Ghana ont rejeté une proposition du gouvernement visant à restructurer les arriérés de 1,58 milliard de dollars que leur doit l'État. Le pays d'Afrique de l'Ouest vise à réduire de plus de 10 milliards de dollars les paiements d'intérêts sur sa dette extérieure en 3 ans, afin de pouvoir mettre en œuvre avec succès un accord de près de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international visant à résoudre la crise économique qu'il est connue depuis une génération. Le président du Kenya, William Ruto, accuse le personnel de l'agence de recouvrement des impôts de réduire les recettes de l'État en se livrant à la corruption, en étant de connivence avec les fraudeurs fiscaux et en acceptant des pots de vin. La KRA s'est refusée à tout commentaire. Les autorités kenyanes ont lutté contre la corruption et l'agence de recouvrement des impôts a fait l'objet d'un examen minutieux. Le nouveau président du Nigeria, Bola Tinubu, héritera d'une croissance économique anémique, d'une dette record et d'une production pétrolière en baisse, selon les experts. La dette du Nigeria a augmenté de près de 60% depuis 2015, atteignant 103 milliards de dollars l'année dernière, selon le Bureau de gestion de la dette.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Mohamedou.
On parle de tennis. Il y a près de 40 ans, l'enfant du Cameroun, Yannick Noah, remportait Roland Garros.
Le 5 juin 1983, Noah gagne à 23 ans le trophée que convoitait au joueur de tennis français en dominant le Suédois Mats Wilander, tenant du titre, succédant enfin au Français Marcel Bernard en 1946. C'est mon heure de gloire, c'était chez moi, j'ai dormi dans ce stade pendant un an quand j'avais 16-17 ans. J'ai rêvé de cet endroit, de ce match, se souvient l'ancien joueur dans un entretien avec l'AFP. Ce tournoi, c'était tout pour moi et je le gagne. C'était juste parfait, un coup droit qui sort le public du central de qui laisse éclater sa joie. Et son père qui court le prendre dans ses bras. Il y a donc près de 40 ans, Yannick Noah remportait Roland Garros et signait l'une des victoires les plus retentissantes du sport français qui n'a pas été rééditée depuis chez les hommes.
Il faut dire, Eric, que Yannick Noah est une source d'inspiration du tennis français.
La plus belle victoire du tennis français à l'occasion des 40 ans du sacre de Yannick Noah à Roland Garros en 1983. Des joueurs tricolores racontent l'impact de cette victoire sur leur carrière, leur vie.
Et que dit Gaël Monfils, demi-finaliste à Roland-Garros en 2008?
Yannick a fait quelque chose d'extraordinaire et forcément cela a énormément joué dans toutes les carrières de tous les sportifs français ou dans le tennis. J'ai eu la chance de le côtoyer en tant qu'ami, capitaine de Coupe Davis et de partager des moments privilégiés avec lui. Yannick est quelqu'un de spécial, il a toujours été une inspiration pour moi, quelqu'un qui a réussi à trouver quelque chose en lui que beaucoup aimeraient aussi trouver. On ne peut qu'être admiratif devant Yannick, souligne Gaël Monfils.
Et qu'en est-il de Amélie Mauresmo, victorieuse de l'Open Australie et de Wimbledon en 2006?
La finale de Noah a déterminé toute sa vie. C'est marrant parce que je n'arrive pas à savoir si c'est un vrai souvenir d'une petite fille de 4 ans ou les images que j'ai vues après. Ce qui m'a parlé, c'est l'émotion de la victoire. C'est ça qui reste. Mes images, c'est quand j'allais dans le jardin refaire des gestes après. C'est plus ça que je garde et c'est plus relié à mon histoire personnelle. C'était clé, mes parents ont vu que j'aimais bien le tennis, ils m'ont acheté une raquette et puis j'étais plutôt doué. J'ai été repéré, détecté, je suis parti en tennis études, donc en fait, ce moment-là, a déterminé toute ma vie. Je ne serai pas là aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Nous ne pouvons pas énumérer tous les joueurs admirateurs de l'enfant du Cameroun, Onfa, mais nous nous limitons à ces deux exemples pour illustrer leur nombre. Et c'est tout pour l'espoir.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous, maintenant la partie magazine. La Chine et la République démocratique du Congo vont renforcer leur partenariat et intensifier leur coopération, a déclaré Pékin ce vendredi, alors que se poursuivent les discussions sur la renégociation des contrats miniers portant sur les réserves minérales congolaises. Des responsables de la RDC ont déclaré à la presse à Pékin que les discussions sur la renégociation des contrats miniers visent à conclure un accord d'État à État plutôt que des accords entre la RDC et les sociétés minières individuelles. Pour une analyse, Jean-Roger Billon a joint Jimmy Kandé, président de l'ONG, le Congo n'est pas à vendre.
Alors, dire que cela préfigure un accord gagnant-gagnant, on ne sait pas encore. Il faut que nous puissions voir le clause de renégociation du contrat entre les deux pays et que tout ce qui avait été décrié par la société civile et qui a encore été mis en exergue par l'inspection générale de finances ont pu bien évidemment trouver solution, et au travers de clauses du contrat, on pourra bien évidemment conclure si le nouveau contrat serait gagnant-gagnant ou pas.
Alors vous, en tant que ONG dénonciatrice des contrats léoniens, est-ce que vous êtes satisfait de ce chemin emprunté par le président Tshisekedi?
Je pense que nous sommes satisfaits en partie, parce que c'est un travail de longue haleine dénoncer le contrat chinois. C'est bien de pouvoir revisiter ce contrat, renégocier, mais comme je dis, il serait encore beaucoup plus intéressant si nous arrivons à avoir en possession de toutes les clauses de contrat qui vont nouvellement signer entre la Chine et la RDC pour pouvoir apprécier. Et entre autres, il faudrait que le président de la République qui veut se lancer ou qui s'élance dans cette dynamique puisse également veiller à ce que ceux qui ont amené la RDC dans cette arnaque du siècle, qui ont reçu de pots de vin, qui ont conduit à ces scénarios, puissent répondre de leurs actes dans la justice.
Alors des responsables de la RDC sur place à Pékin ont déclaré à la presse que les discussions sur la renégociation des contrats miniers visent à conclure maintenant un contrat, un accord d'État à État, plutôt qu'un accord entre la RDC et des sociétés minières individuelles. Est-ce que ce paradigme rencontre vos souhaits, étant donné que votre ONG est pionnière de la dénonciation des contrats chinois en RDC?
Je pense que c'est déjà un pas. C'est toujours intéressant pour un État de pouvoir discuter directement avec un autre État plutôt que de passer par des acteurs privés. Mais la clé restera, et c'est ça même le défi pour tous les contrats qui sont signés par la République démocratique du Congo, c'est de pouvoir s'assurer d'abord que le contrat soit dignement signé et que l'exécution va également se faire tout en respectant les clauses du contrat. Je pense que pour nous, ce qui serait plus important, c'est de pouvoir analyser, une fois que cette renégociation sera bouclée, de pouvoir passer au peine fin toutes les clauses du contrat, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est seulement en ce moment-là que nous pourrons nous prononcer sur le fait que ce contrat bénéficie bien évidemment au peuple congolais ou pas.
Jimmy Kandé, président de l'ONG, le Congo n'est pas à vendre.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, après des violences occasionnant plusieurs pertes en vies humaines, des cases brûlées et des biens matériels emportés par les assaillants dans les départements de Mont-de-Lam et de la Niapende, les autorités politiques et judiciaires appellent à l'apaisement. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, demande aux cadres de ces deux départements, résidents dans la capitale, de l'aider à restaurer l'autorité de l'État. Mais les organisations de la société civile disent attendre mieux de la part des autorités. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Le gouvernement dans son ensemble est resté muet sans fournir le bilan de cette tuerie et le moindre détail sur l'identité des assaillants qui ont le même mode opératoire.
Massi Ousimbi, président du collectif des associations pour la défense des droits de l'homme, tout en appelant le président de la transition à assumer ses responsabilités face à ce massacre et d'user de tous les moyens pour rétablir l'ordre et la sécurité des biens et des personnes vivant dans le Logone oriental, il formule quelques recommandations au gouvernement.
D'ouvrir une enquête sur cette barbarie pour identifier les commanditaires et leurs complices. De mettre à la disposition de la justice les assaillants arrêtés pour qu'ils répondent de leurs actes. Élever les autorités administratives impliquées dans cette tuerie et de les poursuivre devant les juridictions compétentes. De mettre en place une commission indépendante de réinstallation de ces populations meurtries.
Le procureur général près le tribunal de grande instance de Mundu, Toba et Bedumti, tente de rassurer. Il annonce que les présumés auteurs de ce massacre appréhendés par les forces de l'ordre sont déjà entre les mains de la justice de Gorée.
Les éléments de force de défense et de sécurité dans leur traque de ces malfaiteurs avaient usé de leurs droits de poursuite jusqu'en territoire centrafricain où elles les ont atteints donc dans leur dernier retranchement, frappant et capturant quelques 32 autres. Ces malfrats ainsi capturés ont été donc remis par le gouverneur de la province du Logone oriental à la justice, rendant ici le tribunal de grande défense de Gorée territorialement compétent. Diligence sera donc faite pour que la justice soit rendue dans un délai raisonnable.
Le président de la transition, Mohamed Idriss Déby, qui vient de rentrer d'une tournée politique dans la partie septentrionale du pays, convoque les cadres des deux départements du Logone oriental pour faire le point de la situation. Emmanuel Nadingar, ancien premier ministre, et Jacques Laingamaï, conseiller national, au sortir de la rencontre avec le chef de l'État.
Il a voulu que les cadres soient confiants dans l'action du gouvernement, que nous puissions œuvrer véritablement pour la paix.
Il nous invite d'être sincères avec lui, sensibiliser nos parents, essayer de leur dire que nous sommes en transition et que le discours de la haine doit cesser.
Pendant que le chef de la transition demande aux cadres de la province de Logone oriental de sensibiliser leurs parents attaqués par les assaillants pour une cohabitation pacifique, un autre groupe d'éleveurs armés de fusils de guerre utilisant la même méthode ont attaqué ce jeudi le village Baradé dans la province du Mandoul, toujours dans le sud du Tchad. Un habitant de la dite localité, Jean par VOA Afrique, informe qu'il y a eu 12 morts, plusieurs blessés, des maisons incendiées et la tension est encore vive. L'entente des églises et missions évangéliques au Tchad demande au gouvernement d'user de tout son pouvoir et rôle régalien pour assurer la protection des populations dans le sud du Tchad ainsi que de leurs biens. André Kodumba Dingar, Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Ici aux États-Unis, les migrants africains ont créé un événement appelé Africa on the Avenue, une célébration pour mettre en valeur les Africains de la diaspora et promouvoir l'inclusion ainsi que le dialogue entre les différentes cultures. Cette célébration s'est déroulée sur le long de la Georgia Avenue le week-end dernier au parc Bruce Monroe dans le Maryland avec de la musique live, des commerçants et de la nourriture. Roger Muntu y était pour nous. Suivons son reportage.
Georgia Avenue, au parc Bruce Monroe dans le Maryland, où se déroule Africa on the Avenue. Le festival bat son plein avec de la musique live, des vendeurs locaux et une myriade de délices culinaires. L'atmosphère est électrique et nous sommes impatients de découvrir tout ce que cette journée nous réserve. Écoutons Kay Pearson, organisatrice de Africa on the Avenue.
So this is an event called Africa on the Avenue.
Africa on the Avenue est une occasion exceptionnelle de célébrer notre héritage africain et de partager notre culture avec la communauté. Nous sommes fiers de montrer la diversité et la beauté de l'Afrique à travers la musique, la danse, l'art et la cuisine.
Les rythmes africains résonnent dans les rues alors que des artistes talentueux nous offrent de performances envoûtantes. Les danseurs exécutent des mouvements gracieux tandis que les musiciens jouent des instruments traditionnels créant une véritable symphonie de culture et d'harmonie. En parlant de cuisine, les délices culinaires africains sont à l'honneur ici. Des stands colorés proposent des plats traditionnels venant des différents pays du continent. Des saveurs exotiques éveillent les papilles et les festivaliers se délectent de mets succulents comme le jollof rice, le poulet yassa ou encore les beignets de banane plantain. Outre la nourriture, Africa on the Avenue est également l'occasion de soutenir les entrepreneurs locaux, des stands regorgeant d'artisanat africain, de vêtements traditionnels et d'accessoires uniques sont installés le long de la rue. C'est une opportunité pour les visiteurs de découvrir et d'acquérir des pièces uniques tout en soutenant les talents locaux.
L'artiste, photographe et styliste Frange Abaraka était présent.
Ici, je suis en train de présenter mes habits et j'ai ma marque qui s'appelle Yakitoko. Yakitoko veut dire quelque chose de beau. C'est Lingala, ça vient du Congo, là, en Afrique centrale. C'est une façon pour nous de montrer aux autres notre culture.
Alors que cette journée extraordinaire touche à sa fin, les sourires et les rires remplissent l'air. Africa on the Avenue a réussi à rassembler des personnes de tout horizon autour d'un héritage commun à travers la musique, la danse, la cuisine et l'art. Cet événement restera gravé dans les mémoires comme une célébration de la diversité, de l'inclusion et de la fierté africaine.
This is the voice of America. Washington, D.C.
En sport, on connaîtra demain samedi 27 mai le nouveau champion de la Basketball Africa League saison 3, l'AS Douane du Sénégal et Al Ahly d'Égypte, deux clubs qui n'ont jamais été en finale de la balle, s'affronteront dans la Kigali Arena pour succéder à l'US Monastir de la Tunisie, champion en titre. Reportage de nos envoyés spéciaux à Kigali, Cheikh Tiro et Yacouba Ouedraogo.
Aujourd'hui, je les ai dit de prendre plaisir. Parce que l'objectif a été déjà atteint.
Ce sont les mots de Mamadou Gueye, coach de l'AS Douane, après la qualification pour la finale de la Basketball Africa League saison 3 devant Petro de Luanda, pourtant annoncé favori. Pour écarter les Angolais en demi-finale, les Sénégalais ont imposé un jeu physique bâti autour d'une bonne défense. Ce samedi 27 mai, l'AS Douane, qui n'a plus perdu dans cette édition 2023 depuis 5 matchs, voudrait appliquer une tactique similaire à son adversaire de la finale, Al Ahly. Les Égyptiens le savent très bien. Ihab Amin, joueur d'Al Ahly.
Ce sera un match très difficile. C'est une bonne équipe. Ils ont des très bons défenseurs. Je pense que nous devons faire un meilleur travail en terminant nos attaques, en évitant les fautes stupides.
Cette formation d'Al Ahly compte 7 joueurs de l'équipe nationale d'Égypte. Ils se connaissent pour avoir évolué depuis fort longtemps ensemble, bénéficiant aussi de renforts comme l'Américain Michael Thompson. Le coach d'Al Ahly, Augustin Djulbé-Bosch, profite beaucoup de cette profondeur du banc avec des joueurs interchangeables.
La plupart du temps, j'aime donner l'opportunité de jouer à tout le monde, au moins en première mi-temps, et ensuite je choisis celui que je sens le mieux pour le match. Mais c'est un avantage pour nous d'avoir un effectif aussi profond et une telle qualité de joueurs.
Cette finale Al Ahly AS Douane, c'est aussi une opposition entre deux entraîneurs très différents. Le calme du coach sénégalais Mamadou Gueye contraste avec l'agitation de son homologue d'Al Ahly, Augustin Djulbé-Bosch.
C'est ce que je suis. Quand je vois quelque chose, je dois le dire. Parfois, je le dis de manière gentille, parfois, je réagis de manière excessive. Mais par-dessus tout, à la mi-temps, nous nous réunissons et nous essayons d'avoir un regard positif les uns sur les autres. Moi, envers les joueurs et les joueurs entre eux.
Le coach à tempérament posé, Mamadou Gueye, dont les joueurs sont pourtant agressifs positivement, n'épouse pas cette manière de faire.
Certains coachs, pour instaurer cette agressivité, se basent sur l'inconfort psychologique, ce qui m'apparaît contestable car elle fragilise les joueurs sur la durée et ne comprennent plus. Je pense coacher, c'est donner du respect à ses joueurs et ce que j'essaie de transmettre à mes joueurs depuis que j'ai commencé le coaching.
En cas de victoire ce samedi 27 mai face à Al Ahly, le coach Mamadou Gueye et ses poulains de l'AS Douane rapporteraient au Sénégal son premier trophée de la Basketball Africa League. Si par contre c'est Al Ahly qui l'emportait, il deviendra le deuxième club égyptien à inscrire son nom au palmarès de cette balle après le Zamalek en 2021, coaché alors par le même Augustin Djulbé-Bosch qui soulèverait son deuxième trophée de la balle. Yacouba Ouedraogo, Cheikh Tiro, VOA Afrique, Kigali.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouhamadou Oumfa, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube et Twitter. Merci de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.